Vous êtes sur RTL.
RTL dimanche soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 19h15. RTL dimanche soir à 19h15, ce sera le sport avec Isabelle Langer. À la une ce soir, un constat et un cri d'alarme à l'ouverture de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Les 8 années 2015-2022 seront les plus chaudes jamais enregistrées. Notre planète envoie un signal de détresse, assure Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Nous serons en direct de Sharm el-Sheikh avec l'envoyé spécial d'RTL qui va donc revenir sur l'ouverture de cette COP27 et sur ses enjeux. Dans l'actualité de ce dimanche 6 novembre, également une marche blanche, 15 jours après la mort de Justine Vérac, tuée à l'issue d'une sortie en boîte de nuit à Brive et après les aveux d'un jeune agriculteur. Marche organisée aujourd'hui à Saint-Céré dans le Lot, 700 personnes, un lourd silence et beaucoup d'émotion chez les amis de la victime. Les trains fantômes dans les Hauts-de-France, faute de conducteurs, galère énorme pour des milliers de personnes, reconnaît Clément Beaune, le ministre des Transports, au grand jury. Il demande un plan d'urgence à la SNCF et annonce qu'il verra demain Xavier Bertrand, le patron de la région. En attendant, pour la rentrée de demain, eh bien pas plus de trains sur les rails que pendant les vacances. Dans ce journal, nous irons en Floride à quelques heures d'un meeting de Donald Trump et à 3 jours des midterms, les élections de mi-mandat, qui seront décisives pour Joe Biden, mais aussi peut-être pour la prochaine présidentielle de 2024. En Ukraine, toute la région de Kherson sans eau ni électricité, mais aussi le grand barrage stratégique de Kharkovka endommagé par un tir de missile. Les deux camps s'accusent mutuellement. À 18h30, ce sera le MacPoll, le grand jury de Clément Beaune, l'élection de Jordan Bardella à la tête du RN, l'hypothèse d'une dissolution et un sondage sur les législatives si elles avaient lieu aujourd'hui, et puis l'étude BVA sur les Français, les Européens face au changement climatique. Tout le sport bien sûr ce soir, avec tout d'abord le tennis. C'est la victoire, on va dire surprise, du Danois Holger Rune au Masters 1000 de Bercy cet après-midi. Il a battu Djokovic, Jean-Michel Rascol.
Oui, un champion au visage d'enfant allongé sur le court, un champion qui cogne. Holger Rune bat Djokovic 3-6, 6-3, 7-5 en 2h33. Une sensation signée par un Danois de 19 ans.
Et on va revenir sur cette finale tout à l'heure avec vous. Merci Jean-Michel. Le foot, 14e journée de Ligue 1. Victoire du PSG cet après-midi à Lorient 2-1. Victoire de Reims face à Nantes 1-0. De Monaco à Toulouse 2-0. De Nice face à Brest 1-0. Match nul, 1 partout entre Clermont et Montpellier. Et alors pour Lille-Rennes qui a débuté à 17h, on en est où Samuel Duhamel?
Ah bien, c'est la mi-temps Vincent et c'est le LOSC qui mène logiquement 1-0. But inscrit à la 16e minute par le capitaine Fonte suite à un mauvais dégagement de Steve Mandanda.
Merci Samuel, on vous retrouve dans 20 minutes ce soir. L'Olympico, Marseille-Lyon, 20h45. L'OM qui a besoin de rebondir. L'OL de Laurent Blanc à la relance. On ira au Vélodrome prendre l'ambiance. Le quintet de Deauville, 5, 2, 3, 7 et 4. Sachez qu'avant 19h, comme chaque dimanche, on refera la planète avec Alain Bougrain-Dubourg. Mais tout d'abord, parlons du temps. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Un peu moins de pluie demain.
Oui, alors il va rester quelques averses sur la moitié nord, mais franchement, nettement moins que ce qu'on a connu aujourd'hui. La moitié sud, elle va profiter d'une journée très ensoleillée une fois dissipées bien sûr les brouillards du matin. Reste que sur la moitié nord, il y aura aussi pas mal de vent, des rafales de 50 à 70 km/h aussi bien sur les côtes que dans les terres. Et puis les températures, elles vont repartir à la hausse, figurez-vous. Alors pas demain matin, ça va encore bien picoter. On aura 3 degrés à Valence au réveil, 6 à Toulouse, 11 à Paris. Dans l'après-midi, jusqu'à 23 degrés à nouveau attendus à Ajaccio, 22 à Marseille, 19 degrés à Lyon, 16 à Paris, 15 à Lille. Le reste de la semaine, les températures vont rester relativement douces. En tout cas, mardi et mercredi, on va avoir une grosse dégradation qui va traverser le pays sur ces deux journées-là. Et jeudi et vendredi seront deux belles journées ensoleillées avec du coup un petit fléchissement des températures.
Merci Valérie.
RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
Bon, malgré cette baisse, ce maintien des températures douces que nous annonce à l'instant Valérie, il y a quand même une baisse des températures globales depuis quelques jours, des nuits plus froides, de l'humidité dans l'air. Et on va dire qu'on y est, si ce n'est déjà fait. La relance du chauffage collectif ou individuel est imminente. Cette année, en cette période de crise énergétique, on ouvre les radiateurs avec en tête la menace d'une facture douloureuse et la recommandation du gouvernement de ne pas chauffer au-delà de 19 degrés. Alors finalement, chauffer ou ne pas chauffer, telle était la question de ce week-end, Valentin Boissé.
Oui, c'est la question que s'est posée par exemple Cathy hier soir avant d'aller se coucher. Il faisait 7 degrés dehors, son chat grelotte alors sous sa couette.
Moi je l'ai allumé hier soir pour pouvoir dormir.
Première nuit donc avec chauffage de l'année. Le thermostat est depuis fixé à 21 degrés dans son studio. Pas très fort car ses voisins chauffent aussi. Mais Annie, elle, grimace lorsque je lui pose la question.
Vous avez rallumé le chauffage ?
Depuis avant-hier. Il y a un souci, c'est que ce qu'on pense pas, moi je suis sous les toits. Et sous les toits, il fait très froid rapidement. Ouais, moi je vais avoir un problème cet hiver.
Un problème de coût, c'est la crainte de nombreux foyers cet hiver, notamment pour ce couple dans l'appartement de Yannick et de sa femme. La température descend déjà à 18 degrés et pas question de rallumer le chauffage.
Pour l'instant, on l'a pas du tout rallumé, on s'est juste davantage couvert. Le choix a été fait de faire quelques économies.
Je pense que je vais acheter des pullovers, je vais plus me couvrir pour dormir le soir.
On retrouve un peu les gestes des anciens.
Dormir donc avec des pulls, Yannick espère tenir ainsi jusqu'en décembre sans chauffage pour économiser.
Merci Valentin Boissé. Un peu plus de 2 semaines après la mort de Justine Vérac, cette jeune femme de 20 ans tuée après une soirée en discothèque à Brive, affaire pour laquelle, vous le savez, un agriculteur de la région est incarcéré. Eh bien, une marche blanche a eu lieu cet après-midi à Saint-Céré, là où Justine avait été scolarisée pendant ses années de collège. Des centaines de personnes se sont donc rassemblées pour cet hommage organisé par les amis de Justine, Valentin Larquier.
Oui, les yeux sont rouges et les larmes coulent sur les joues de certains participants. 700 personnes ont marché pour rendre hommage à Justine Vérac cet après-midi. La marche blanche et silencieuse organisée par les amis de la jeune femme a traversé les rues de Saint-Céré où elle a été scolarisée. Corinne est venue de Thoriac, le village où vivait Justine.
C'était une petite fille que je connaissais. Donc c'est un peu compliqué. On soutient cette famille et pour notre petit village, c'est très compliqué.
Les parents de Justine ne sont pas présents à la marche. Elle s'est terminée dans le jardin public au pied d'un séquoia. Les participants placent des bougies, des fleurs blanches et accrochent la banderole « Justice pour Justine ». Nina, une jeune fille de 14 ans, dépose un mot.
On t'oubliera jamais, Justine. Ça me tenait à cœur de venir parce que je me dis ça aurait pu être ma demi-sœur. Là, on voit que ça peut arriver même dans les plus petites villes et tout. Donc ça me touche.
À quelques mètres, Michel réconforte un ami de la jeune femme.
J'ai vu ce jeune homme qui pleurait, donc j'ai posé ma main sur son épaule. J'ai senti, la peine qu'il ressentait.
Une peine partagée par tous ce samedi après-midi dans le village de Saint-Céré.
Un reportage signé Valentin Larquier. Pour désengorger les tribunaux, le gouvernement aurait-il décidé d'utiliser une méthode, disons, assez radicale, une forme de nettoyage administratif pour diminuer le stock de milliers de procédures judiciaires en cours, et cela en classant sans suite les dossiers trop vieux ou qui n'avancent pas. C'est en tout cas ce qu'affirme ce matin le journal du dimanche, et on y reviendra dans le journal de 19h. La COP27 vient donc de s'ouvrir en Égypte, à Charm el-Cheikh, où l'on retrouve en direct l'envoyé spécial d'RTL. Bonsoir Virginie Gallin.
Bonsoir à tous.
Alors cette fois ça y est, on y est. La COP27 s'est d'ailleurs ouverte avec un cri d'alarme.
Oui, du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Dès l'ouverture tout à l'heure, la planète nous envoie un signal de détresse, a-t-il dit. Alors, un tiers du Pakistan est inondé, ce qui fait 30 millions de sans-abri en ce moment. La sécheresse sans précédent dans la Corne de l'Afrique a aggravé la famine. Les canicules cet été en Europe, l'ouragan aux États-Unis ont montré que tout le monde est désormais dans le même bateau. Les 8 dernières années ont été les plus chaudes de l'histoire. Arrêtons les promesses. Cette fois, il faut agir, a-t-il dit. Alors, il le répétera demain aux 120 chefs d'État qu'on attend ici.
Alors Virginie, Charm el-Cheikh, où vous êtes, cette grande station balnéaire qui abrite cette COP, est-elle devenue pour l'occasion une ville verte ?
Alors c'est très étonnant, les habitants eux-mêmes disent qu'ils ne reconnaissent pas leur ville car en quelques mois tout a été réparé, métamorphosé. Il y a des pistes cyclables partout, des lampadaires solaires, des bus électriques, une vraie vitrine écologique. Alors il faut quand même rappeler que l'Égypte reste le pays d'Afrique qui consomme le plus de charbon et de gaz. Et puis il y a des couacs dans l'organisation de cette conférence. Dehors, Vincent, on a des paysages époustouflants, le désert, la mer rouge. Il faisait 30 degrés aujourd'hui et bien dans le centre de conférence il devait faire 12. La clim est un peu trop forte. Donc, il y a parfois des incohérences dans ces COP, comme ces stands immenses des pays des pétroliers. L'Arabie Saoudite, le Qatar, ce sont les plus fastueux. Bon, ils ne sont pas venus ici, vous l'imaginez, pour promouvoir les éoliennes.
Ouais, on imagine bien, effectivement. Bon, rassurez-nous quand même, Virginie. Une COP, ça sert bien à quelque chose.
Oui, quand même. Alors, j'ai croisé énormément de jeunes aujourd'hui, plus que d'habitude, des ONG, des délégués, une jeune tchadienne, par exemple, très déterminée, et qui me disait au moins une fois par an, on peut rencontrer les politiques, médiatiser le sujet, faire pression. Alors oui, ça ne va pas assez vite, mais les États s'engagent et ça les oblige à faire avancer leur législation, à mettre plus d'argent pour développer les énergies vertes, pour aider les pays du Sud. Il y a 83 milliards par an qui leur sont consacrés. Alors, ce n'est pas suffisant. Ils veulent plus, mais avec cet argent, réaliser des projets concrets. Des arbres sont replantés au Sahel. On fait des centrales solaires. Quand on leur demande si les COP servent encore à quelque chose, les négociateurs et même les ONG, les écologistes, sont tous agacés. Ils disent poser la question autrement. S'il n'y avait pas eu toutes ces conférences, s'il n'y avait pas eu l'accord de Paris, où en serait la planète aujourd'hui? Eh bien, ce serait sans doute pire.
Merci Virginie. Virginie Garin, l'envoyée spéciale d'RTL à Sharm el-Cheikh. Une courte pause et dans un instant, nous serons à Miami à 3 jours des élections de mi-mandat. À tout de suite.
RTL Dimanche. RTL Dimanche Soir avec Vincent Parisot.
Les États-Unis sont maintenant à moins de 3 jours d'un scrutin décisif pour la suite du mandat de Joe Biden, mais aussi peut-être déjà pour la prochaine présidentielle de 2024. Ce sont les midterms, les élections de mi-mandat qui visent à renouveler une partie du Sénat et l'ensemble des sièges de la Chambre des représentants. Bonsoir Lionel Gendron.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Vous êtes le correspondant d'RTL aux États-Unis, vous êtes en ligne de Miami, en Floride, où Donald Trump va tenir un meeting, car on peut dire, tout d'abord, que l'ombre de Trump plane bel et bien sur ces élections.
Oui, parce qu'il a la main sur le parti républicain et que partisans et adversaires attendent sa déclaration de candidature. Hier, en Pennsylvanie, il a promis que ce serait très, très bientôt. Alors, dès ce soir, politiquement, juste avant les élections, ce serait étonnant. Mais bon, il y a des symboles ici. On n'est pas très loin de sa résidence de Mar-a-Lago. Et surtout, on est sur les terres de son rival, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, la cible actuelle de Donald Trump. Il lui reproche eh bien, de ne pas s'écarter de son chemin. Les supporters qui commencent à arriver seraient ravis d'entendre sa déclaration de candidature ce soir. Mais ce sera plus probablement dans quelques jours. La date du 14 novembre est même avancée.
Alors dites-nous, Lionel, quels sont les enjeux de cette campagne des midterms? De quoi parle-t-on?
Alors le problème pour les démocrates, c'est plutôt ce dont on ne parle plus, en tout cas beaucoup moins, c'est-à-dire l'avortement, alors que dans certains États, ce droit est suspendu aux prochaines élections, puisque désormais chaque État a défini ses propres règles. Mais Rebecca, une mère de famille d'une petite ville de Pennsylvanie, résume le sujet du moment, le porte-monnaie. Elle n'est pas fan de Donald Trump, mais elle veut du changement.
Le prix de l'essence et de tout le reste, ça nous met à cran. Les gens souffrent et c'est pour ça qu'ils vont voter conservateurs et pas démocrates. Ça n'a pas fonctionné avec eux.
Les élections du mandat, c'est un référendum sur le pouvoir en place et qu'il en soit responsable ou pas, Joe Biden et donc les démocrates seront jugés sur l'économie. Et
on a aussi beaucoup parlé des tests complotistes, de menaces sur les élus dans cette campagne, c'est vrai ?
Oui, et les menaces, c'est ce qu'il y a de plus fou et d'inquiétant en ce moment dans ces élections. Il y en a eu des milliers ces derniers mois, ciblant des élus ou des fonctionnaires chargés de surveiller le scrutin. Factuellement, cette situation, elle est créée par Donald Trump, qui clame toujours, sans preuve, que l'élection de 2020 lui a été volée. Preuve de l'attention, des budgets supplémentaires ont été débloqués pour assurer la protection des employés électoraux. Le mari de Nancy Pelosi a été agressé, c'est la chef de la Chambre des représentants qui a été visée. Et puis, vous le disiez, des centaines de théories du complot se diffusent sur les réseaux sociaux. Écoutez par exemple Jennifer, elle est chimiste et elle est persuadée d'une chose.
On a récemment été informé qu'un crash financier allait se produire. Et avant les élections, ce qui créerait un chaos qui profiterait aux démocrates, car ils savent qu'ils vont perdre.
Voilà, et des théories comme celle-ci auxquelles des millions d'Américains croient profondément, sincèrement, bien, il y en a des dizaines et des dizaines.
Lionel Gendron, le correspondant d'RTL aux États-Unis, en direct de Miami, où il va donc suivre le meeting de Donald Trump. Il vous en parlera largement, évidemment, demain dans la matinale d'RTL. En Ukraine, la ville de Kherson, toujours occupée par l'armée russe, est désormais privée d'eau et d'électricité, ainsi que les dizaines de communes environnantes. Moscou dénonce une attaque terroriste ukrainienne contre des lignes à haute tension, mais la Russie accuse également Kiev après un tir de missile qui a endommagé le barrage de Kharkovka. Il s'agit d'un immense barrage stratégique. Et d'ailleurs, Sophie Jousselin, les deux camps s'accusent mutuellement de vouloir le détruire.
Effectivement, et aujourd'hui, ce sont les Russes qui montrent du doigt les forces ukrainiennes. Elles auraient lancé 6 missiles, dont un aurait touché l'infrastructure. Une écluse serait endommagée, il n'y aurait pas de dégâts critiques. Or, ce barrage est stratégique pour les Russes. C'est un des derniers points de passage qui leur permettent d'acheminer des troupes d'un côté à l'autre du Dniepr, ou même de les évacuer. Depuis plusieurs semaines, Russie et Ukraine s'accusent mutuellement de mettre en danger l'édifice et la vie de milliers de personnes. Récemment, Kiev affirmait que les Russes avaient miné le barrage avec des conséquences dramatiques en cas de rupture. Des millions de mètres cubes d'eau retenus en amont seraient libérés. Des dizaines de localités dans le sud de l'Ukraine, dont Kherson, seraient inondées. La Crimée, annexée par la Russie en 2014, serait privée d'eau. Même la centrale nucléaire de Zaporijjia serait affectée. L'eau qui sert au refroidissement des réacteurs est puisée dans le lac de retenue du barrage.
Sophie Jousselin. Clément Beaune, le ministre des Transports, était donc l'invité du grand jury RTL, Le Figaro, LCI à la mi-journée. On reviendra évidemment sur les aspects politiques de l'émission à 18h30 dans le MacPol. Mais bien sûr, il a été largement été question de transport et notamment de la pénurie de trains dans les Hauts-de-France dont on vous a déjà parlé sur RTL. Et il entend remédier le plus vite possible à cette situation. Écoutez.
C'est des chiffres très importants, c'est des galères énormes pour des milliers de gens. Et ce qu'a fait la SNCF, c'est, comme il y avait des pénuries de trains, elle a réduit en effet l'offre de trains. C'est pas du tout satisfaisant. On peut pas vivre avec moins 10% d'offres, parce que ça paraît peu comme ça, mais ça veut dire qu'il y a des lignes entières où les gens attendent des heures, parfois, un train. L'État doit néanmoins prendre ses responsabilités. Je verrai demain Xavier Bertrand, voir si on peut mettre plus de conducteurs plus vite. Et j'ai dit à la SNCF dès cette semaine, cette situation ne peut pas durer. Il faut que vous ayez un plan de recrutement accéléré, de formation accélérée, en respectant les exigences de sécurité. Conducteur de train, ça ne se forme pas en 15 jours, c'est 12 à 18 mois. Il faut qu'il y ait un plan de sortie de cette crise, dans les Hauts-de-France en particulier. En tant qu'actionnaire à 100% de la SNCF, l'État doit évidemment accompagner cet effort. La région organise l'offre et l'État pousse la SNCF à améliorer les choses.
Voilà, Clément Beaune, au grand jury, le ministre des Transports, vous avez entendu, annonce qu'il va réagir. En attendant, eh bien, sur le terrain, dans les gares des Hauts-de-France, les trains fantômes font de la résistance. Et demain, pour la rentrée des classes, eh bien, il n'y aura pas plus de trains que ces 15 derniers jours pendant les vacances, Antoine de Carne.
Oui, et certains usagers comme Thibault s'attendent déjà à des difficultés demain matin.
Ça va être galère. C'est l'auto tous les matins. Arriver sur le quai et de voir sur l'écran que le train est supprimé, bah c'est une catastrophe.
Car en fait, il manque 65 conducteurs de train par jour dans les Hauts-de-France. Alors pour cela, 136 TER avaient été supprimés par la SNCF pendant les vacances. Mais en fait, c'est bien plus si l'on en croit la région qui a compté 197 suppressions en moyenne par jour. Alexis Cosma fait partie de l'association Lutèce qui représente les usagers. Picard.
Malheureusement, on s'attendait à ce que la SNCF ne trouve pas de conducteurs en quelques jours. On a eu, en plus de ces plans de transport réduits, toujours des pannes de train, des trains courts qui sont ajoutés à déjà cette réduction d'offres qui pénalisait beaucoup les usagers.
Et la région de France, par l'intermédiaire de Franck Dersin, son vice-président en charge des transports, s'inquiète déjà de la situation.
On sait que ce ne sera pas bon. On nous avait dit, bon, on fait un plan adapté pendant les vacances, puis après on l'améliorera ensuite. Or, il s'avère qu'il n'est pas du tout amélioré. On paye 530 millions d'euros tous les ans pour un résultat qui est très mauvais.
Et même si la SNCF a annoncé 17 TER supplémentaires pour le 14 novembre, la semaine qui vient s'annonce difficile pour les usagers nordistes.
Reportage dans les Hauts-de-France, signé Antoine Decarne. Il est presque 18h20, on marque une courte pause. Dans un instant, tout le sport a commencé par la surprise de Bercy.
RTL dimanche. 18h-19h15, RTL dimanche soir. Avec Vincent Parisot.
Et donc, direction Bercy avec la finale du Masters 1000 de tennis qui s'est terminée il y a une demi-heure environ. Remporté donc par le Danois Rune face à Djokovic et cela Jean-Michel Rascol après une fin de match absolument incroyable.
Oui, une fin de match dans un Bercy en feu où les joueurs ont dû parfois attendre que le public se calme. Rune avait sauvé 3 balles de match au premier tour face à Stan Wawrinka. Il gagne aujourd'hui en 3-7 sur son premier Master 1000 face à une légende du jeu, Novak Djokovic, écœuré, finalement dépassé par tant de puissance, d'aisance et de détermination. Rune est le plus jeune vainqueur de ce tournoi depuis Boris Becker en 1986. Il est entraîné par le français Patrick Mouratoglou, programmé pour gagner. Né pour soulever les foules après ses plus beaux points, et il y en a eu. Le Danois a levé les bras pour exprimer sa satisfaction. 103e joueur mondial en janvier, quart de finaliste à Roland-Garros. Il est ce soir 10e joueur mondial. Juste une étape dans une ascension que l'on pressent irrésistible.
Jean-Michel Rascol en direct de Bercy. La nouvelle date pour le départ de la route du Rhum, ce sera mercredi. 14h15, les conditions météo seront plus favorables. Je vous rappelle que le départ aurait dû être donné aujourd'hui à 13h, mais avait été repoussé justement en raison de ces conditions météo. Il n'y a pas eu de miracle pour que Quartararo en MotoGP, l'Italien Bagnaia, a été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière après le Grand Prix de Valence. Pour être sacré, Bagnaia n'avait besoin que de la 14e place. Finalement, il a terminé 9e. Le Français Quartararo, qui aurait dû l'emporter pour être titré à 8h, terminé quatrième, donc pas de regret avec ce titre. En tout cas, Bagnaia devient le premier champion italien en MotoGP depuis la légende Valentino Rossi en 2009. Allez, le foot, je vous rappelle les résultats de l'après-midi. La victoire du PSG à Lorient, 2-1 de Reims face à Nantes, 1-0 de Monaco à Toulouse, 2-0 de Nice face à Brest, 1-0. Le nul entre Clermont et Montpellier, 1 partout. Tout à l'heure, Lille-Rennes, Samuel Duhamel, les Lillois menaient 1-0, ça a évolué.
Eh bien, ça a évolué, ça fait désormais un but partout ici à Pierre-Mauroy. Premier but effectivement inscrit par le LOSC à la 16e minute par José Fonte après une intervention fautive de Mandanda qui a relâché le ballon suite à un centre de Cabella. Mandanda qui s'est d'ailleurs en partie rattrapé sur une frappe de ce même Cabella à la 24e minute et sur une autre de David à la 36e. Mais Rennes vient d'égaliser à la 58e minute sur un pénalty de Bourigeaud suite à une faute de Bamba sur Christopher Wu dans la surface lilloise. Rennes qui s'était procuré très peu d'occasions avant cela. Et voilà, après 61 minutes, ça fait toujours un partout entre Lille et Rennes.
Merci Samuel, on vous retrouve évidemment à 19h après la fin du match. Et puis ce soir, c'est l'Olympico, 20h45, Marseille-Lyon. L'OM qui est dans une spirale négative a besoin de rebondir. L'OL de Laurent Blanc est depuis deux matchs plutôt à la relance. Alors ça promet une belle ambiance ce soir au Vélodrome, Hugo Hamelin.
Exactement Vincent, ça promet surtout un Olympico qui va sérieusement piquer pour l'équipe qui sera défaite ce soir. Ce serait une rechute pour l'OL de Laurent Blanc et ce serait véritablement un début d'incendie à l'Olympique de Marseille, encore traumatisé par son élimination en Ligue des Champions et qui reste sur une série catastrophique de 5 matchs sans victoire. Écoutez Dimitri Payet, le capitaine devenu remplaçant, qui décrit l'état d'esprit de son équipe.
Voilà un groupe touché, un groupe déçu forcément par ce résultat et cette fin de campagne européenne pour cette saison. Après voilà, ce qui est logique au vu de notre soirée de mardi. J'étais très frustré de pas être sur le terrain, mais comme à chaque fois, je me prépare chaque match pour les jouer, pour essayer d'apporter quelque chose si je dois rentrer. Mais bien évidemment que oui, la frustration était grande parce que on veut aussi aider nos coéquipiers et que ça n'a pas pu être possible sur ce match-là.
Alors Dimitri Payet sera-t-il titulaire ce soir? C'est la grande interrogation, mais il devrait avoir à minima du temps de jeu dans un duel entre Olympique qu'il apprécie particulièrement et après le mea culpa d'Igor Tudor. Les tribunes du Vélodrome, vous l'avez dit, vont être pleines à craquer, match à guichet fermé, mais les sifflets et les banderoles vengeresses ne sont plus très loin. Alors méfie, comme on dit ici à Marseille, malheur aux perdants.
Malheur aux perdants, et eh bien on suivra ça sur RTL. Merci beaucoup Hugo Hamelin, coup d'envoi 20h45. Le match donc dans RTL Foot avec Christophe Paco et Johan Rioux. Mais la grande performance sportive du jour, c'est bien celle de l'équipe d'RTL pour le marathon Equidène de Paris, une course à pied en relais sur la fameuse distance mythique du marathon, 42 195 km. Et nos six athlètes, Franck Moulin, Quentin Darmon, Delphine Girard, Stéphane Bellery et Ludovic Van de Kerkhoff, ont terminé 173e sur les 1095 équipes qui ont passé la ligne d'arrivée, tout ça sous la pluie, bravo à eux et à tous les participants. Bien évidemment, j'ai oublié Vincent Derosier, en plus c'est lui qui court le plus vite. Donc voilà, c'est réparé. Une courte pause puisqu'il est quasiment 18h28 et on ouvre le MacPol.
RTL dimanche soir. RTL dimanche soir. Le MacPol avec Vincent Parisot.
Le MacPol, le magazine politique de la rédaction d'RTL, avec ce soir Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Ça tangue un peu tout de même, on en parlera. Existe-t-il déjà le bardellisme quand on a parlé du marinisme? Eh bien, on sera avec Marie Mollet, la spécialiste du RN ici à RTL. Le grand jury de Clément Beaune, le ministre des Transports, on en écoutera l'essentiel avant d'y revenir avec ses intervieweurs. Et puis, deux sondages, celui publié par le JDD, le journal du dimanche, sondage législatif, si elles avaient lieu aujourd'hui. Alors, le RN monte, la NUPES baisse, mais on va surtout évaluer l'hypothèse de la dissolution. Est-ce qu'elle est vraiment envisagée? Et puis, une étude BVA pour RTL à l'occasion de la COP27. Les Français, les Européens, face au changement climatique, conscients des dangers, mais sceptiques sur l'action. On en parlera avec Christelle Craplet de BVA.
Vincent Parisot, le MacPol sur RTL.
Ça relève peut-être de la politique fiction, mais cette hypothèse, elle est posée dans un sondage IFOP pour le JDD. Si le premier tour des législatives avait lieu aujourd'hui, pour qui voteriez-vous dans votre circonscription? Alors, on en parle avec les intervieweurs du grand jury. Olivier Bosse pour RTL. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir.
Adrien Jeanne pour TF1 LCI. Bonsoir. Jim Jarassé pour Le Figaro. Bonsoir. et Marie-Pierre Haddad d'RTL.fr également avec nous. On regarde tout d'abord les résultats. Les seuls à monter, c'est le Rassemblement National et Reconquête. La majorité, Renaissance, Modem, Horizon est stable, tout comme LR à peu près.
Si demain il y avait des élections législatives.
Et la NUPES est en baisse. Est-ce que tout d'abord, ces résultats vous étonnent ?
Non, parce que ça correspond à une tendance finalement qu'on a vue après les élections présidentielles. C'est assez logique. Mais sur la dissolution, c'est pas un scénario fiction. C'est une hypothèse que d'abord Emmanuel Macron a alimentée en disant que si les LR allaient voter une motion de censure avec LFI et avec le RN et faisaient donc chuter le gouvernement, ça serait directement aux urnes pour tous les Français. Donc c'est une hypothèse très très improbable dans les semaines, les mois qui viennent, à cause du sondage que vous venez de citer, effectivement. Si vous voulez, l'avantage d'une dissolution, le but d'une dissolution, c'est de dégager une nouvelle majorité. Très clairement, si demain il y avait des élections, il n'y aurait pas de nouvelle majorité claire pour le président de la République.
Cette hypothèse d'une dissolution déjà presque planifiée, hein, selon le journal du dimanche, vous y croyez, vous, Adrien Germe ?
En fait, je pense que précisément, le sondage vient montrer à quel point cette stratégie n'aurait pas de sens. Et c'est tout le paradoxe. Peut-être que le scénario est envisagé, peut-être que certains même le souhaitent, y compris dans l'entourage du chef de l'État, ou en tout cas ont émis cette proposition, mais ça ne servirait à rien si ces chiffres correspondent à la réalité. Et je trouve que c'est là, en l'occurrence, qu'est peut-être la surprise. Ça veut dire que depuis le mois de juin, il ne s'est rien passé. Les Français ne se sont pas dit « cette assemblée ne fonctionne pas ». Les Français ne se sont pas dit « tel parti s'est révélé en positif ou en négatif », puisque globalement, c'est une sorte de statu quo, même si ça frétille, ça frémit à l'extrême droite. Ça veut dire que la France reste profondément fracturée et divisée.
Marie-Pierre Haddad.
Et Emmanuel Macron a mis la pression aux députés Les Républicains, mais pas que. On voit que ça s'est vraiment diffusé dans toute l'Assemblée. Pour avoir discuté avec plusieurs élus, que ce soit donc LR, RN, LFI, mais aussi Modem et Renaissance, tous ont commencé à prendre un crayon, un papier, une calculette et à essayer de voir dans leur circo et par rapport aux adversaires qu'ils ont eus lors des précédentes législatives, est-ce que ça passe ou pas ? Est-ce que quand on a gagné avec 100 voix de différence avec le Rassemblement National, on est en danger ou est-ce qu'on peut être serein. Et déjà, là, il commence à y avoir autant de projections possibles que de scénarios.
Merci à vous quatre. On vous retrouve évidemment dans quelques minutes pour revenir sur le grand jury de Clément Beaune. D'ici là, qui êtes-vous, monsieur Bardella ? On répond à cette question, mais aussi à toutes celles qui se posent depuis hier et son élection à la présidence du Rassemblement National à seulement 27 ans. Bonsoir, Marie Mollet.
Bonsoir.
Alors, vous suivez le Rassemblement National sur RTL. Vous étiez bien sûr hier à la Mutualité pour ce congrès et cette élection de Jordan Bardella. Alors, on le rappelle, il a été très bien élu, près de 85%. Et pourtant, il n'est président que depuis 24 heures, qu'il a déjà des embûches devant lui.
Oui, vous savez, président de parti, c'est un boulot ingrat. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Marine Le Pen. Et Jordan Bardella l'a compris à ses dépens à peine une heure après son sacre. Car aussitôt élu, il a fait face à son premier défi, qui était de remanier les instances du parti pour y apposer sa marque, faire monter ses proches, rétrograder ses ennemis, sans pour autant mettre le feu au parti. Eh bien, ce premier défi, il est raté, car il a provoqué un psychodrame. Il a évincé, Jordan Bardella, deux élus du Pas-de-Calais, Steve Briouat et Bruno Bild, autrefois très influents au sein du RN, réputés tout puissants même, qui ont été essentiels à l'implantation de Marine Le Pen dans le bassin minier. Dans la foulée, Steve Briouat, maire d'Hénin Beaumont, a répliqué et dénonce ouvertement une purge et un virage identitaire. Écoutez.
Tout cela s'apparente à une purge. Il y avait des gens qui portaient la ligne sociale au sein du mouvement, ils ont été éjectés. On a mis à la place des gens beaucoup plus identitaires. Jordan Bardella est identitaire, oui, c'est pas nouveau. Je n'ai pas envie que la ligne politique soit infléchie avec son arrivée.
Alors l'entourage de Jordan Bardella estime qu'il s'agit là de caprices de mauvais perdants, mais des attaques comme cela au grand jour sur sa ligne, ça n'arrive jamais au RN. Et oui, cela vient polluer sa victoire éclatante. Et puis son sacre, il intervient au pire des moments, deux jours après l'esclandre à l'Assemblée provoqué par un député RN qui renvoie le parti à son image de pestiféré. Donc c'est vraiment joué de malchance pour Jordan Bardella parce que, en fait, depuis juin, le RN nageait dans une espèce d'euphorie où tout se passait au-delà de leurs propres espérances.
Alors justement, parlons maintenant, j'allais dire, du fond, des idées. On a parlé du marinisme au sujet de Marine Le Pen. Alors c'est quoi le bardellisme ?
Alors ça, c'est une question assez complexe en réalité, parce qu'on peut se demander si même cela existe, le bardellisme. Est-ce qu'il est suffisamment étoffé idéologiquement pour avoir sa ligne propre ? Ce qu'on pouvait entendre ces dernières années en interne, c'est que Jordan Bardella, c'est quelqu'un d'assez plastique, qui s'intéresse pas vraiment à l'idéologie, mais qui est un surdoué des plateaux de télé et qui pourrait défendre, au fond, 50 nuances de RN. Ce que dit Jordan Bardella, lui, c'est que le bardellisme, c'est un marinisme, qu'il est là pour défendre la ligne édictée par Marine Le Pen, identitaire et sociale, et qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre eux. Mais pendant cette campagne interne, on a vu émerger des critiques nouvelles, on l'a entendu avec Steve Briouat, Jordan Bardella serait plus à droite que Marine Le Pen, serait plus proche d'une ligne zémouriste, irait braconner sur les terres d'Éric Zemmour, il serait plus identitaire. Et c'est vrai que, par exemple, sur le grand remplacement, Jordan Bardella, il est plus radical que Marine Le Pen, hein. Il dit que cela pointe une réalité qui existe. L'origine de son engagement militant, c'est l'insécurité et l'immigration dans la cité de Seine-Saint-Denis dans laquelle il a grandi. Donc, voilà, il va falloir maintenant observer de très près ses variations de discours, ses stratégies, son entourage pendant ses premiers pas de président pour savoir ce qu'est vraiment le bardellisme.
Merci Marie Mollet, la spécialiste du Rassemblement National ici au service politique d'RTL. Justement d'ailleurs, tiens, Clément Beaune, le ministre des Transports, était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI à la mi-journée. Il a évoqué le nouveau président du Rassemblement National.
Je suis absolument certain que le combat contre le Rassemblement National, un, c'est la priorité absolue. Si je me suis engagé dans le débat public et depuis 2 ans en politique, c'est d'abord contre l'extrême droite et d'abord contre moi ce que j'appelle le Front National, parce qu'on peut changer la vitrine, c'est la même chose. On l'a vu il y a 7 semaines. Jordan Bardella, c'est un président de parti d'extrême droite qui est issu de cette histoire de l'extrême droite française, oui, qui est raciste et xénophobe. Je le dis, et c'est un combat politique difficile, il faudra démonter ses idées, montrer que c'est toujours le parti de la haine et du mensonge.
Voilà, Clément Beaune, donc, vous l'avez compris, clairement opposé et combattant vis-à-vis du Rassemblement National. Et il s'est aussi exprimé sur les nouvelles actions des militants écologistes qui sont multipliées ces dernières semaines.
Mais je comprends le sentiment d'urgence. Mais est-ce que c'est utile de jeter de la soupe sur un Van Gogh ? Est-ce que c'est bien et justifiable d'aller lancer un cocktail Molotov contre les forces de l'ordre ? Non. Est-ce que ça fait avancer la cause écologique ? Je suis absolument certain que non. Ça ne veut pas dire que dans l'histoire, les manifestations, les mobilisations sociales, écologiques n'ont pas servi. Il y en a qui ont été pionniers, bien sûr. Mais on ne peut pas tout justifier. Et il faut se mettre autour de la table. Mais ça n'est pas la même chose que d'aller casser, vandaliser les installations d'ailleurs d'agriculteurs, hein, pas de grands propriétaires, et d'aller participer à des manifestations illégales avec la plus grande violence.
Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury de Clément Beaune, notamment pour l'aspect politique de ce grand jury. Et on retrouve donc ses intervieweurs, Olivier Bosse pour RTL, Adrien Jeanne pour TF1 LCI, Jim Jarassé pour Le Figaro et Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. On vient de l'entendre sur le Rassemblement National, sur les écologistes radicaux, Olivier Bosse. Sa sensibilité de gauche, c'est quand même de là d'où il vient. Il arrive à l'exprimer.
Alors complètement, et notamment vis-à-vis du Rassemblement National, Clément Beaune y fait partie de ceux qui ont toujours considéré qu'il ne fallait pas normaliser le Rassemblement National, qu'il ne fallait pas le dédiaboliser. Et pour lui, il y a un combat moral à mener. Et sur ce plan-là, lui n'a jamais accepté le fait de considérer que le RN était un parti comme les autres et que finalement, il fallait les traiter comme tout le monde.
D'un côté, il dit le RN, la lutte contre le RN, c'est mon combat, je viens de là d'ailleurs. Et puis sur l'éco-terrorisme, formule employée notamment par Gérald Darmanin, il dit « Moi, je n'utiliserai pas cette formule ». Adrien Gindre ?
Là, c'est pas facile non plus pour lui. S'il veut faire vivre cette fibre de centre-gauche, qu'est-ce qu'il a à proposer pour que la cause écologiste avance ? Il se trouve qu'il conteste les méthodes. Il nous a pas non plus dit qu'il était complètement en désaccord sur le fond. Et c'est là la difficulté de sa position. Il est dans la solidarité gouvernementale. Et peut-être qu'au fond de lui, ça le travaille tout de même, cette question de savoir comment répondre à ces militants dont il partage peut-être certains engagements.
Merci beaucoup à vous quatre, Marie-Pierre Haddad. Ne partez pas trop loin, vous reviendrez tout à l'heure avec l'agenda. Dans un instant, les Français, les Européens et le réchauffement climatique. C'est une grande étude BVA à l'occasion de la COP27 et on en parle avec la directrice de BVA Opinion dans un instant, Christelle Craplet.
Le MacPol, Vincent Paris. Oui. RTL dimanche soir. Le MacPol avec Vincent Parisot.
Et l'invité du MacPol, c'est Christelle Craplet, la directrice de BVA Opinion. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous pour évoquer cette grande étude que vous avez réalisée, enquête internationale dans tous les pays de l'Union européenne, mais aussi au Royaume-Uni, en Chine, aux États-Unis, sur ce que pensent les Européens, et notamment les Français, évidemment, c'est ce qui va nous intéresser, du changement climatique. Tout d'abord, cette étude, est-ce qu'elle confirme la hausse de la prise de conscience sur le réchauffement? Je crois que c'est la deuxième préoccupation des Français, le changement climatique.
Tout à fait. On a vraiment cette étude, enfin, nous montre vraiment une hausse de la prise de conscience. Quand on leur demande, en fait, quels sont les plus grands défis auxquels leur pays est actuellement confronté, ils sont 47% à nous citer le changement climatique. C'est juste derrière le pouvoir d'achat à 52%. Donc, une vraie place importante pour le changement climatique et surtout qui a progressé, en fait, par rapport à l'année dernière, puisqu'on a 8 points de plus en un an. Donc, vraiment une prise de conscience grandissante chez les Français, mais aussi chez les Européens, sur ce sujet du changement climatique.
Prise de conscience aussi que si on ne réduit pas de manière drastique notre consommation d'énergie, on va vers la catastrophe.
Oui, exactement. On leur a posé tout à fait dans ces termes et le résultat est massif. Ils sont 89%, les Français, à nous dire que voilà, si on ne fait rien, on se dirige vers une catastrophe mondiale et ils sont même encore plus nombreux que les Européens à le penser. Donc vraiment un sentiment d'urgence et de problèmes très significatifs.
Est-ce qu'on peut dire que l'été caniculaire que l'on a connu a produit ses effets? Est-ce qu'ils ressentent plus maintenant l'impact du réchauffement?
Alors effectivement, l'été qu'on a vécu, la canicule, tous les épisodes de sécheresse ont profondément marqué les esprits. Aujourd'hui, c'est 80% des Français qui nous disent qu'ils ont le sentiment bien que le changement climatique a vraiment un impact dans leur vie quotidienne. Là encore, ces chiffres sont en progression. Ils étaient 71% l'année dernière. C'est comme si on était un peu passé d'une société qui sait, qui est informé sur le sujet, à une société qui le ressent quasiment dans sa chair, en fait.
Alors, elle le sait, elle le ressent, la société, et pourtant, alors ça c'est valable pour les Français, je crois, comme pour les Européens, il y a du scepticisme, un gros scepticisme dans l'air sur ce qui est engagé par les États.
Oui, et c'est toujours un peu le problème face à ce grand défi. Les Français ont le sentiment que finalement, les pouvoirs publics sont trop lents à agir contre le changement climatique. 87% nous disent qu'ils sont trop lents. C'est tout à fait dans la moyenne. Alors, ils incriminent pas que le gouvernement. Eux-mêmes, on va dire presque collectivement, ils s'incriminent également, puisqu'ils sont presque aussi nombreux à nous dire que les individus, les entreprises, sont pas vraiment disposés à changer la façon dont ils produisent et consomment. Donc, il y a vraiment le sentiment qu'il faudrait en faire plus, mais ils sont presque un peu paralysés devant l'enjeu. Et en tout cas, ils considèrent aussi que leur gouvernement n'en fait pas suffisamment sur ce sujet.
Et du coup, et ce sera la dernière question, Christelle Craplet, est-ce que les Français ou les Européens pensent que la guerre en Ukraine, peut influer sur nos comportements et finalement, à l'arrivée, changer la donne?
Bah effectivement, ça leur apparaît presque comme une opportunité. Ils sont 71% à nous dire que cette guerre-là peut-être avoir peut être une opportunité d'accélérer la transition environnementale. On l'a vu, c'est pas simple. Ils savent qu'il y a encore beaucoup de choses à accomplir, mais ils se disent peut-être que c'est l'occasion de réfléchir au sujet et d'agir davantage contre le réchauffement climatique.
Merci beaucoup, Christelle Craplet, la directrice de BVA Opinion, donc sur cette grande enquête réalisée dans toute l'Europe et même au-delà, par BVA. Merci de l'avoir commenté ce soir sur RTL. On en arrive maintenant à la fin de ce MacPoll, ou presque, puisque chaque dimanche, on ouvre avec vous, Marie-Pierre Haddad, l'agenda.
On s'intéresse ce soir à la semaine d'Emmanuel Macron et surtout à l'écologie. Demain, le président participe à la 27e conférence de l'ONU sur le climat, la fameuse COP27 qui se déroule en Égypte. Emmanuel Macron est régulièrement accusé, vous le savez, par les écologistes et par ses opposants politiques de ne pas en faire assez pour lutter contre le réchauffement climatique. Eh bien, le président a décidé de faire de la pédagogie. Il a posté sur son compte Twitter une vidéo où il incite les Français à lui poser des questions sur l'action du gouvernement, sur l'écologie, sur la transition énergétique. Et il y en a déjà beaucoup. 10 000 messages ont été reçus. Sur la COP27 à présent, l'Élysée explique que l'enjeu de cette réunion va être la question de la compensation financière pour les pays les plus pauvres qui, eux, subissent déjà les effets du réchauffement climatique. Mardi, toujours sur l'écologie et toujours sur la sobriété énergétique, le président réunit les représentants des 50 sites industriels qui émettent le plus de gaz à effet de serre en France. L'objectif de cette réunion est vraiment de les pousser à accélérer leur décarbonation. Vendredi, Emmanuel Macron va se concentrer un peu plus sur l'international pur et dur. Il va présider les commémorations du 11 novembre et dans la foulée, il va ouvrir le Forum de Paris sur la paix. Tout ça dans un contexte déjà très tendu avec la guerre en Ukraine et avec les États-Unis qui se disent de plus en plus préoccupés par la possibilité d'une frappe nucléaire de Moscou.
Merci Marie-Pierre Haddad. Et bien sûr, dimanche prochain, 18h30, un autre MacPol. Celui-ci se termine ainsi. Et dans un instant, Alain Bougrain-Dubourg vient nous refaire la planète.
Les paris. RTL. On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
On refait la planète, c'est parti. Tous les dimanches soirs, Alain Bougrain-Dubourg nous revient pour essayer de la refaire un petit peu, cette planète qui en a bien besoin. Bonsoir Alain.
Bonsoir Vincent.
On commence à chaque fois avec un indice sur un son de la nature que l'on doit découvrir. Alors quel est cet indice?
Il ne vole guère plus d'un mois.
Et on l'écoute. Voilà, c'est vrai qu'on dirait un peu un drone. Donc vous nous avez dit, il ne vole guère plus d'un mois. J'imagine que c'est un peu sa durée de vie.
Oui, tout à fait.
Et on aura la réponse à la fin de l'émission.
On refait la planète sur RTL.
Alors Alain, on en parle énormément. On en a encore parlé dans le journal, bien sûr. La COP27, la COP climat qui commence aujourd'hui, qui va durer jusqu'au 18 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et à cette occasion, vous voulez donner la parole à la caravane africaine pour le climat. Qu'est-ce que c'est exactement?
Eh bien, c'est le regroupement d'une centaine d'organisations de la société civile du continent qui a sillonné 28 pays pour constater les dégâts causés par le changement climatique, mais aussi pour mettre en valeur les solutions. À la tête de cette caravane africaine du climat, Sena Alouka.
Nous avons fait le tour des communautés, nous sommes allés sur les pilotis au Bénin, on est allé voir les populations indigènes à l'Ambaréné au Gabon, on est allé voir des populations vivant dans le presque désert du nord du Togo, on a fait le tour du Sénégal, on était allé en Gambie, et ce qu'on a entendu, c'est d'abord un message de joie, de paix, de solidarité avec le monde entier.
Alors ça, c'est plutôt positif, on l'entend. J'imagine aussi qu'il y a des revendications.
Oui, évidemment, et notamment sur la partie budgétaire. 100 milliards de dollars étaient promis d'ici 2020, lors de la COP de Copenhague, c'était en 2009, afin de permettre l'adaptation des pays les plus affectés. Or, le compte n'y est pas, nous dit Sena Alouka, qui résume en une phrase.
Toute l'Afrique ne reçoit que 5% de la finance mondiale. Et de ces 5%, seulement 2% vont à l'adaptation. Or, c'est l'adaptation qui intéresse les communautés. Et on espère que ces voix des citoyens qui demandent qu'il y ait plus de financement pour l'adaptation, plus de financement pour les pertes et dommages, et bien que ces voix soient entendues.
Est-ce que de nouveaux financements seront consacrés à l'adaptation au changement climatique?
Ce sera notamment l'objet de la COP 27, mais Sena Alouka veut garder l'espoir.
Il y a des solutions aujourd'hui. Nous, on sait faire l'agriculture intelligente. On sait faire une agriculture raisonnée, une agriculture qui tienne compte des besoins de la terre, de l'homme, mais également de la nature. Et aujourd'hui, cette forme d'agriculture qu'on appelle l'agroécologie constitue une solution idéale simple qui permet à des millions, des milliards de paysans de bien se nourrir et nourrir la planète. Il se fait tout simplement que cette solution n'intéresse personne. On préfère financer les grandes sociétés agricoles qui, en fait, ne sont que des solutions artificielles, des solutions high-tech où les drones, les innovations, la technologie va remplacer le paysan. Si on restaure des milliards de terres aujourd'hui qui sont dégradées en Afrique, on peut arriver à résorber une partie du problème. L'action est l'antidote du désespoir. Oui, il y a des raisons de s'inquiéter, mais il est hors de question pour moi de perdre ma foi. Donc à la question si j'ai foi à l'avenir, oui j'ai foi, je suis même très positif.
Ah, il est impressionnant hein, quand même, Sena Alouka, la caravane africaine pour le climat, l'action est l'antidote au désespoir. On retiendra évidemment cette formule.
On refait la planète sur RTL.
Alain, on chasse les idées reçues régulièrement. On entend souvent dire que les municipalités n'ont pas besoin de remplacer les éclairages des lampes qui fonctionnent, qu'il est préférable de garder longtemps, évidemment, celles qui sont déjà existantes. C'est vrai, c'est faux?
C'est faux. Ouais. C'est faux et c'est l'association des écomaires et le syndicat de l'éclairage qui l'affirment. Et pourtant, les lampes à mercure interdites, je le rappelle, depuis 2015, représentent encore 20% du parc français et 40% des luminaires en service ont plus de 25 ans. Conclusion, le remplacement par des LED s'impose. Les LED ont une durée de vie approchant les 100 000 heures, c'est colossal, contre quelques milliers pour les lampes traditionnelles.
Donc il y a encore du boulot. Un événement à ne pas manquer cette semaine, Alain, à Paris, c'est ça ?
Oui, je vous propose le parc floral qui accueille le salon Marjolaine. Ouais. Le salon du bio, c'est la 46e édition, avec 450 exposants, plus de 60 conférences, des débats sur le thème du bio, bien sûr, ouais. Mais plus largement, on va dire que c'est le salon du bien-être au naturel, et c'est jusqu'au 13 novembre.
Allez, Alain, on conclut l'émission avec le son de la nature du début de l'émission. Vous nous aviez donné un indice, ils ne volent guère plus d'un mois. On l'écoute ?
Oui. Bon, c'est alors, peut-être un animal que vous embêtiez quand vous étiez petit.
Qu'est-ce
c'est
que je
le
lui faisais ?
Hanneton.
Ah, le hanneton !
Voilà.
Ah, bon. Le hanneton. C'est vrai qu'on n'en voit plus beaucoup, des hannetons.
Non, on n'en voit plus. Il a failli disparaître dans les années 70 à cause de l'emploi massif du DDT. Bon, c'est un coléoptère qui passe l'essentiel de sa vie sous terre, en vérité.
Oui, oui. Voilà. Il n'est pas très sympa à regarder, le hanneton en soi.
J'adore.
C'est vrai.
Ah, ouais, ouais, c'est une variété de scarabée.
Et là, ce qu'on entend, c'est donc le vol du hanneton. C'est plutôt à quelle période ?
Alors, c'est au printemps-été, et là, bah, ils se réunissent le soir pour copuler.
C'est pas vrai.
Mais oui.
Ils font ça le soir. Eh bien, il y a ouais. des heures pour tout. Vous voyez, c'est comme ça, y compris chez les hannetons. Merci à Bougrain Dubourg. À dimanche.
On refait la planète sur RTL.
Et dans deux minutes, il sera 19h, donc ce sera le journal. À tout de suite.
RTL dimanche soir. Là. RTL. RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
Et pour le journal de 19h donc, Antoine Cavallero. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Retenez bien ce nom. Holger Rune.
Un futur grand tennisman est né à 19 ans. Le Danois a battu son idole Novak Djokovic et s'adjuge son premier Masters 1000 à Bercy. Dans ce journal également, face à une justice débordée, la méthode radicale préconisée par le gouvernement classait sans suite les dossiers les moins prioritaires. La COP27, Emmanuel Macron est attendu en Égypte. L'objectif toujours le même, lutter contre le réchauffement climatique. Et puis, le foot, on suit Lille-Rennes. Samuel Duhamel nous attend au Stade Pierre Mauroy.
Et à 19h15, puisque vous parlez foot, on va refaire le sport avec vous, Isabelle Langer.
Et on reviendra justement sur l'éclosion de Holger Rune avec Gilles Simon, le jeune retraité des cours, mais également avec Guilhem Guerrado. On reviendra là sur le 15 de France, puisque c'est l'ancien capitaine des Bleus.
Et une victoire d'un petit point, mais une victoire qui compte. Merci Isabelle, rendez-vous 19h15.
RTL dimanche soir.
Le panache de la jeunesse, incroyable Holger Rune, vainqueur de Novak Djokovic en 3-7. Il remporte son premier Masters 1000 à Paris-Bercy. Jean-Michel Rascol, à l'avenir, il va falloir compter sur ce jeune Danois de 19 ans.
Il y a une forme d'héritage à voir ce champion à peine sorti de l'adolescence agresser la légende du jeu que représente Novak Djokovic. Djoko, il y a quelques instants, a loué en conférence de presse les qualités physiques du jeune Danois. Il a salué sa volonté et sa faculté à répondre à chaque coup. Il a la solution et la puissance à sa disposition. Holger Rune, 19 ans, a développé un tennis incroyable. Il serre le plomb, tient l'échange, varie les effets et ne semble jamais douter. Le plus jeune champion de Bercy depuis 1980. Et Boris Becker savoure encore en ce moment même sa victoire dans les vestiaires avec sa mère qui suit pas à pas son ascension et son entraîneur Patrick Mouratoglou. Demain, il sera 10e joueur du monde et l'un des ambassadeurs les plus séduisants de la nouvelle génération.
Merci Jean-Michel Rascol à Paris-Bercy pour RTL.
RTL dimanche soir.
Alors ça, c'est pas vraiment une info, hein, tout le monde le sait. La justice n'arrive plus à suivre et des milliers de dossiers s'empilent.
Le gouvernement emploie la méthode radicale. Bonsoir Cindy Hubert.
Bonsoir.
Pour désengorger les tribunaux, une circulaire de mai 2021 passée sous les radars, elle incite les magistrats à classer sans suite certains dossiers. Cindy, vous avez pu consulter cette circulaire.
Oui, cette circulaire part d'un constat partagé. Il faut réduire les stocks d'affaires qui attendent depuis des mois sur les étagères des commissariats. Il faut donc faire du tri et classer sans suite ce qui est classable. Dans les 24 mois maximum pour un délit de fuite, par exemple, 18 mois pour un vol simple, tout cela quand l'enquête ou le manque d'enquête n'a pas permis d'identifier un auteur. Maître Cathy Richard a fait les frais de cette circulaire. Sa cliente, une vieille dame de 77 ans, avait porté plainte pour abus de faiblesse, classée sans suite, sans que rien n'ait été fait depuis 2018.
J'ai été scotchée. C'est le constat d'un dysfonctionnement majeur. On a, pas seulement dans les tribunaux, mais on a dans les
services de police et les services de gendarmerie, des quantités énormes de plaintes, et les policiers pour les traiter, eh ben, il n'y en a pas suffisamment. Et donc, à la fin, qui est-ce qui en pâtit de tout ça ? C'est le justiciable.
Alors bien sûr, cette circulaire ne fait que donner des orientations. Elle n'a pas donné lieu à des classements massifs. Les procureurs sont encore libres de faire du cas par cas, mais avec des injonctions contradictoires, puisqu'on leur demande en même temps de poursuivre largement pour avoir un bon chiffre de réponse pénale.
Cindy Hubert du service police-justice de RTL, merci à vous. Vive émotion ce dimanche à s'insérer dans le Lot, une marche blanche pour Justine Vérac, hommage de ses proches, au moins à 600 personnes rassemblées. Deux semaines donc après la mort de la jeune femme tuée après une sortie en boîte de nuit.
Deux jours après le décès d'un alpiniste dans une avalanche dans les Hautes-Alpes, on s'inquiète maintenant de la disparition de deux skieurs dans le massif de la Vanoise.
On est sans nouvelles d'eux depuis hier. Les recherches n'ont pas abouti ce dimanche et elles reprendront demain matin, Raphaël Vantard.
Oui, cela fait maintenant deux jours que les gendarmes du peloton de haute montagne de Modane cherchent sans relâche ces deux jeunes skieurs de randonnée. Ils sont partis hier matin au lever du jour du refuge du col de la Vanoise. Ils devaient gravir le massif de la Grande Casse. Ils ont laissé au refuge une partie de leurs affaires, notamment les clés de leur véhicule. Ils devaient donc y repasser et ne les voyant pas revenir, les responsables du refuge ont donné l'alerte dès hier soir. Un hélicoptère de la gendarmerie sillonne depuis le massif. Cela fait maintenant 48 heures sans résultat. Une équipe de sauveteurs au sol tente également de retrouver la trace de ces deux jeunes skieurs sur la face nord de ce massif de la Grande Casse. Sont-ils tombés dans une avalanche ? Ont-ils dévissé sur un manteau neigeux très frais ? Impossible de le dire pour le moment. Ce qui est sûr, c'est qu'au vu des températures et de la physionomie de ce massif de la Vanoise, les chances de les retrouver vivants s'amenuisent au fil des heures.
Raphaël Vantard, correspondant RTL en Auvergne-Rhône-Alpes.
Il est 19h05, alors ce qu'on fait, c'est on marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de votre journal. Antoine Cavaliero.
RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
Et donc le coup d'envoi de la COP27 en Égypte, Antoine Cavaliero. Alors COP27 parce que c'est la 27e édition, mais l'urgence est toujours la même, hein, lutter contre le réchauffement climatique.
Ce constat vient le confirmer, les années 2015-2022 en passent d'être les 8 années les plus chaudes de notre histoire. Et à l'occasion de cette conférence climat, pour illustrer la rapidité du changement climatique, RTL a décidé de fouiller dans ses archives.
RTL, 7 jours, 7 reportages.
Direction ce soir le Burkina Faso. Virginie Garin, vous vous y êtes rendue en 2007. Vous aviez visité une école qui forme les ingénieurs africains au métier de l'environnement.
Oui, à l'époque, j'avais rencontré les premiers étudiants de cette école qui formaient au métier de demain pour construire des centrales solaires, des maisons mieux isolées, des systèmes d'irrigation, comme Hélène, elle avait 19 ans.
Je peux travailler dans l'installation des réseaux de forage dans les villages, surtout qu'il y a des régions très éloignées qui n'ont pas accès à l'eau. Il y a plein de choses à faire et c'est à nous d'abord de faire avancer l'Afrique. Et ça commence à travers nous qui sommes jeunes, on doit pouvoir faire des études.
L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement installé à Ouagadougou accueille chaque année 2000 étudiants venus de toute l'Afrique. Alors depuis ce reportage, en 15 ans, elle a formé une génération d'ingénieurs et de cadres. Romain Crouzet de l'ONG Climate Chance le constate sur le terrain.
Il y a une économie très vivace et innovante en Afrique subsaharienne et une capacité d'innovation et de création incroyable. Par exemple, donc à Douala, au Cameroun, il y a énormément de problèmes avec le plastique. Et on a remarqué plusieurs start-up qui se créent. Par exemple, une entreprise qui fait des tuiles à partir de bouteilles en plastique.
Si vous voulez découvrir cette école de l'environnement et écouter tous les reportages dont nous avons parlé cette semaine, vous pouvez aller sur rtl.fr.
Merci Virginie Garin. Virginie, on va vous retrouver un tout du long de cette COP27 en Égypte. Plus de 120 dirigeants attendus à Sharm el-Cheikh, dont Emmanuel Macron.
Allez, on passe au football parce que c'est terminé au stade Pierre-Mauroy. Hein.
Samuel Duhamel, un but partout entre Lille et Rennes.
Exactement, la série d'invincibilité se poursuit pour le Stade Rennais, 16e match sans défaite après ce nul heureux obtenu sur la pelouse de Lille, un partout. Lille avait ouvert le score à la 16e minute par le capitaine Fonte après une intervention fautive de Mandanda. Mandanda qui s'est en partie rattrapé sur des frappes de Cabella, David ou encore Bamba. Et puis à la 58e minute, contre le cours du jeu, les Rennais ont obtenu un pénalty transformé par Bourigeaud. Derrière, Lille a poussé 19 9 frappes. Ils ont touché deux fois les montants par Diallo et Ounas. Et malgré l'expulsion de Melling côté Rennais, les Dogs n'ont pas réussi à concrétiser leur domination. Un partout score final. Lille reste 7e, Rennes reste 3e.
Merci Samuel. Je vous rappelle les autres scores. La victoire 2-1 de Paris sur la pelouse de Lorient. Monaco est allé gagner 2-0 à Toulouse. 1-0 pour Nice face à Brest. Même score entre Reims et Nantes. Un but partout entre Clermont et Montpellier.
Et ce soir, l'Olympico, comme on dit, le choc. Marseille reçoit Lyon. Ce sera dans RTL Foot avec Christophe Paco et Yoann Riou à ses côtés. On devrait se marrer.
La météo, Valérie Quintin, après un dimanche pluvieux pour une bonne partie du pays, ça s'arrange demain.
Retour du soleil pour toute la moitié sud du pays demain, après dissipation bien sûr des brouillards matinaux qui seront localement denses d'ailleurs dans le sud-ouest ou encore en région lyonnaise. Dans la moitié nord, pas de gros mauvais temps mais un ciel chargé toute la journée, quelques averses éparses, des vents toujours assez forts le long des côtes de la Manche. Quant aux températures, eh bien ça repart à la hausse, alors pas le matin, on aura une fourchette de 0 à 14 degrés mais dans l'après-midi, comptez 14 à 23 degrés des Ardennes jusqu'à la Corse, 15 degrés à Lille, 16 à Paris, 17 à Chambéry et 19 à Bordeaux.